BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Thomas Schmel.
Il est midi, bienvenue à tous dans 60 minutes business. Nous sommes le 1er août et avec cette inflation record, plus 6% selon l'INSEE, il y a du changement concernant le portefeuille des Français. SMIC, livret A, retraite, carburant, point d'indice des fonctionnaires, des revalorisations qui ne suffiront sans doute pas à compenser cette inflation record. Les mesures du paquet pouvoir d'achat arrivent d'ailleurs aujourd'hui en commission au Sénat. Seulement une entreprise sur trois a prévu d'augmenter le budget des salaires en plein contexte inflationniste. Les salaires dans les grosses sociétés n'ont augmenté en moyenne que de 3,1% cette année, selon une étude WTW. Et puis c'est l'heure de tirer les premiers bilans des chiffres du tourisme du mois de juillet. Après deux ans de crise sanitaire, la clientèle internationale fait son retour. Bien autre chose dans 60 minutes business. Bienvenue à tous. Le livret A va voir son taux de rendement doubler. Le placement préféré des Français augmente de 2%. 55 millions de Français en détiennent un. Philippe Crevel est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Président du Cercle des économistes, Philippe Crevel, la rémunération double. Elle passe de 1 à 2% net de fiscalité. Ça redevient attractif comme placement, le livret A?
Alors, le livret A à 2%, on va dire c'est mieux que 1%, mais en revanche ça couvre pas l'ensemble de l'inflation comme vous l'avez indiqué, qui sera cette année sur l'ensemble de l'année 2022 supérieur à 5%, ce qui veut dire que le rendement réel du livret A sera négatif autour de 3% voire plus, parce qu'en début d'année on était à un taux de 0,5 puis de 1%. Mais au regard des autres produits d'épargne, 2% c'est pas mal.
C'est une performance. On est les seuls en France à avoir des placements sécurisés comme ça à l'échelle de la zone euro.
Le livret A est une exception française. On adore faire des exceptions, mais là, en la matière, on est très fort. C'est un produit qui bénéficie d'une garantie en capital, d'une liquidité parfaite. On peut entrer et sortir quand on veut. Et puis, il n'y a pas de fiscalité, pas d'impôts, pas de prélèvements sociaux. Et puis, en plus, c'est un produit qui sert à financer des ressources longues pour le logement social. Donc on transforme une épargne de court terme en produit de long terme pour les bailleurs sociaux. Donc oui, c'est une vraie exception française, le livret A.
Vous l'avez dit, ça ne protège pas les épargnants de l'inflation. Pour autant, est-ce qu'on doit s'attendre à une augmentation des dépôts dans les prochains jours, les prochaines semaines peut-être?
Quand le taux du livret A augmente, il y a toujours un effet collecte positive. On l'a vu au 1er février. Et depuis le début de l'année, c'est plus de 16 milliards d'euros qui ont été mis sur le livret A, qui bat des records d'encours à 360 milliards d'euros. Et je pense que avec ce passage à 2%, on aura le même effet. Donc une collecte qui sera un peu plus vigoureuse qu'à l'accoutumée.
Est-ce que vous nous annoncez des bonnes nouvelles? Est-ce que cette augmentation de 2%, ce n'est qu'un début? Et est-ce que peut-être, par contagion, d'autres produits aussi vont voir leur rendement augmenter?
Alors, est-ce un début? Tant que l'inflation, évidemment, est orientée à la hausse, et puis également les taux d'intérêt qui commencent aujourd'hui à se relever. Et la formule du livret A, c'est l'inflation et les taux des marchés interbancaires. Donc si la deuxième composante également est à la hausse, cela aura un effet sur le taux du livret A, et il y aura certainement une nouvelle hausse le 1er février 2023. Sur les autres produits, oui, il y aura un effet contagion, parce que le livret A, c'est une référence. Les banques vont être certainement un petit peu obligées d'améliorer le rendement de leur livret bancaire qui a atteint des niveaux historiquement bas. On était à 0,09% en moyenne au mois de juin. Donc, il y aura forcément là un redressement. Sur les autres produits, c'est plus les taux d'intérêt sur les marchés qui vont jouer, en particulier pour l'assurance vie et ces fonds euros. Il va falloir attendre que les taux d'intérêt augmentent réellement pour pouvoir améliorer le rendement de ces fonds.
Philippe Crevel, président du Cercle de l'épargne, merci pour votre éclairage sur l'augmentation du livret A. Des revalorisations ce 1er août, elles sont nombreuses. Il y a le SMIC qui est à nouveau revalorisé de 2%, le dégel du point d'indice des fonctionnaires, plus 3,5% après 5 années sans hausse, plus 4% pour les retraites, et la prolongation de la subvention sur les carburants de 18 centimes, elle passera à 30 centimes au 1er septembre. On l'entend, l'État met la main à la poche, mais face à l'inflation, les entreprises entreprises vont-elles aussi participer à l'effort et augmenter les salaires? Selon l'étude de Khalil Haït Mouloud, directeur de l'activité enquête chez WTW, si les salaires ont certes progressé de 3,1% cette année, seulement un tiers des entreprises interrogées ont revu à la hausse le budget consacré à l'augmentation des salaires.
Le lien entre inflation et augmentation salariale a été assez proche pendant une longue période, mais dès la sortie de la crise de la fin des années 2010, cette corrélation est beaucoup moins importante. Si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, depuis les années 2009-2010, les augmentations salariales étaient quasi automatiquement en France, mais pratiquement partout dans le monde, supérieures à l'inflation qui était observée. Donc clairement aujourd'hui on est dans un contexte qui est assez comparable, mais de l'autre côté avec des budgets d'augmentation salariale moyenne effectivement qui sont inférieurs à l'inflation, en considérant aussi des perspectives économiques qui feraient potentiellement que l'inflation serait en baisse dans les années à venir pour revenir au niveau des années 2010 concrètement.
Et le paquet pouvoir d'achat entre dans sa dernière ligne droite parlementaire après avoir bouclé l'examen du projet de loi des finances rectificatives vendredi. La commission mixte paritaire se réunit aujourd'hui au Sénat. Les débats porteront notamment sur le bouclier tarifaire, sur l'énergie, la remise carburant, la redevance audiovisuelle, peut-être la taxe sur les super profits qui provoquera des débats. En tout cas, les débats ne sont prévus pour durer que 2 jours. Les autres facteurs qui peuvent attirer les salariés au-delà des chiffres en bas de la fiche de paye, on parle de la qualité de vie au travail. Le travail à distance devenu une norme, parfois devenu aussi un ras-le-bol, voire peut-être même une souffrance. En tout cas, ce qui ressort d'une étude publiée par Allianz Trade, quasiment partout, Allemagne, Italie. On observe même une forme de déception, Caroline Morisseau.
Oui, c'est ça, un peu plus de 2 ans après la crise Covid et donc l'explosion du télétravail. On sent que les salariés commencent déjà à en revenir. C'est particulièrement vrai en Allemagne, où 20% des salariés souhaitent travailler depuis chez eux, contre 25% il y a un an. Même baisse en Italie, où là aussi on voit que le nombre de salariés qui souhaitent télétravailler davantage est en baisse. La seule exception finalement, c'est la France, hein, où le télétravail est aussi moins répandu et où donc les salariés en réclament davantage. Alors certains y voient toujours de nombreux avantages, hein, moins de temps passé dans les transports, plus de flexibilité, plus de calme aussi quand on travaille depuis chez soi, mais ils voient aussi de nombreux inconvénients. 18% des salariés disent avoir du mal à concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle quand ils travaillent depuis chez eux. C'est 2 fois plus qu'il y a un an. Autre problème, 28% des salariés souffrent de l'absence de contact. Là encore, c'est 2 fois plus que l'an dernier. Et ce qu'ils redoutent surtout, c'est pas tellement l'absence de leurs collègues, hein, c'est l'éloignement de leur bureau et le fait que ça puisse créer des inégalités par rapport aux collègues qui, eux, sont au bureau. Ils ont peur que, étant éloignés du bureau, étant plus en télétravail, ça les prive de certaines promotions notamment.
Et peut-être freiner leur carrière. Merci Caroline Morisseau. Midi 8 sur BFM Business. On a passé la semaine dernière de nombreux résultats, plus de 80. Cette semaine, les chiffres de SMCP, Bouygues, Veolia et AXA sont attendus. C'est HSBC qui a publié les siens ce matin. Un bénéfice avant impôt en baisse de 15% au premier semestre. La chute est certes moins importante que prévu, liée à des provisions pour mauvaises créances. La première Banque d'Europe relève ses prévisions toutefois de rentabilité et prévoit que la hausse des taux d'intérêt décidée par les banquiers centraux va doper ses revenus. La banque prévoit de reprendre ses versements de dividendes trimestriels dès l'an prochain. Alibaba continue sa chute sur les marchés financiers. Le titre du géant chinois du commerce en ligne a clôturé en séance à la baisse, moins 5%. Alibaba, qui est dans le collimateur des autorités de surveillance du marché financier américain, comme 250 entreprises et peut-être la menace qu'Alibaba soit expulsé de Wall Street. En prise avec une dette colossale, 38 milliards d'euros l'an dernier, la SNCF tente par tous les moyens de résorber cette charge. Continuons de vendre les bijoux de famille. Le groupe ferroviaire se sépare de son loueur de locomotives Akiem. Il le revend à la Caisse des dépôts du Canada, le fonds de pension qui gère les retraites des fonctionnaires québécois. Le gouvernement français, qui a repris à son compte une bonne partie de la dette de la SNCF, avait exigé de l'entreprise des efforts en matière de cession de ses actifs. Et si justement l'avenir des transports de marchandises se passait désormais sous terre, c'est en tout cas un projet d'avenir qui se déroule en Suisse de l'autre côté des Alpes pour désengorger les routes, fluidifier le transport. Eh bien, la communauté helvétique va permettre le transport de marchandises dans des tunnels sous terre en vigueur comme aujourd'hui. Alexandra Pagé.
Coût du projet privé, la Confédération ne déboursera pas un sou, entre 30 et 35 milliards d'euros. Autour de table, Swisscom, La Poste ou encore Holcim, entre autres, des investisseurs étrangers participent également. L'idée, un tunnel à triple voie de 500 km, exploité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il doit relier les principaux centres logistiques entre Genève, Bâle et Lucerne, avec des connexions internationales. Les marchandises entrent et sortent de manière totalement automatisée, grâce au software, via des ascenseurs situés au point d'accès, les hubs, vitesse de croisière des véhicules souterrains, 30 km/h. Le CST est ainsi prévu pour assimiler la hausse du trafic de marchandises, estimée à 34% d'ici 2040, et vise à débarrasser les routes de leurs camions et bien entendu de la pollution et des émissions de CO2 que leur circulation représente. Ce nouveau réseau, dont la planification et le financement sont gérés par la société anonyme Cargo Souterrain, devrait être achevé et opérationnel en 2040.
Camailleux, désormais en cessation de paiement avec son bailleur, est placé en redressement judiciaire par le tribunal de Lille. C'est l'enseigne de prêt-à-porter qui en avait fait la demande. La direction assure travailler un plan de continuation pour préserver l'activité de ses 2571 salariés. Le chômage dans la zone euro lui reste stable. 6,6% de chômeurs en juin dans les 19 pays. Le nombre de demandeurs d'emploi est en baisse par rapport à juin de l'an dernier. Il était de 7,9%. C'est le premier navire chargé de céréales ukrainiennes à quitter le pays depuis le début de la guerre. Le Rosani s'était lancé du port d'Odessa ce matin avec une cargaison de maïs à son bord. Kiev et Moscou avaient signé un accord pour reprendre les exportations de céréales. Le début d'un voyage diplomatique en Asie pour Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants aux États-Unis. Premier pays visité, Singapour, aujourd'hui, avec un doute qui plane sur un potentiel déplacement à Taïwan. Alors que Pékin considère que toute venue de responsables américains sur ce territoire serait vue comme un soutien au camp indépendantiste à New York, Lubna Naki.
Oui, depuis que l'information selon laquelle Nancy Pelosi pourrait se rendre à Taïwan a commencé à circuler, il y a eu effectivement de nombreuses réactions de la part de la Chine qui a mis en garde les États-Unis à plusieurs reprises. Pékin estime que Taïwan fait partie de son territoire et que la venue de l'élue américaine serait une provocation. Il y a quelques jours seulement, lors d'un échange téléphonique avec Joe Biden, le président chinois Xi Jinping a expliqué qu'il s'agissait là d'une ligne rouge à ne pas franchir. Ce à quoi Joe Biden a expliqué qu'il n'y avait rien à craindre. Officiellement, Washington n'a pas de lien diplomatique avec Taipei et reconnaît l'autorité de la Chine. Et si elle assure qu'elle ne défend aucun changement de politique sur ce dossier, Nancy Pelosi a tout de même à plusieurs reprises critiqué la Chine pour des violations des droits de l'homme. Et elle estime surtout que la question de l'indépendance de Taïwan devrait revenir aux Taïwanais. Officiellement, en tout cas, Nancy Pelosi et la délégation qui l'accompagne devraient se rendre à Singapour, en Malaisie, en Corée du Sud et au Japon pour discuter de Covid, d'économie et de climat. Et officiellement, sur son programme, il n'y a aucune mention de Taïwan.
L'heure de vote a commencé au Royaume-Uni pour les adhérents du Parti conservateur dans la dernière ligne droite pour élire le successeur de Boris Johnson. Ils sont appelés à départager les deux candidats, Liz Truss, la grande favorite, et Rishi Sunak, la chef de la diplomatie britannique, a marqué des points lors des derniers débats télévisés. Les militants Tories ont jusqu'au 2 septembre pour faire connaître leur choix. Résultat final attendu le 5 septembre prochain. C'est le premier été sans mesures sanitaires en France. Et ça se voit, les touristes profitent plus que jamais. 75 et 80% de taux de remplissage à Paris et sur la Côte d'Azur, dans les hôtels. Le mois d'août s'annonce même meilleur pour les professionnels. Hélène Cornet.
C'est une saison exceptionnelle, affirme Olivia Grégoire, la ministre déléguée au tourisme. Plus 21% d'occupation en juillet pour les campings, par exemple, d'après les chiffres du ministère. Malgré l'inflation, les Français sont plus nombreux à partir en vacances cette année, 10% de plus que d'habitude. Ils prennent en moyenne 11 jours de congé. La clientèle internationale est de retour également, surtout les Européens. Le golfe de Saint-Tropez n'a jamais accueilli autant de touristes aux étrangers. De quoi redonner le sourire aux professionnels. professionnels du tourisme. Le chiffre d'affaires est en hausse de 10 à 25% en juillet pour l'hôtellerie, de 2% pour les restaurateurs, selon les données de l'Observatoire du groupement des indépendants. Seule ombre au tableau, les vagues de chaleur qui pénalisent légèrement les envies de consommer et le manque de personnel qui limite l'activité. Le mois d'août devrait confirmer la tendance. Selon PAP Vacances, le taux d'occupation des locations saisonnières dépasse les 80% les trois premières semaines.
Et ce sont les Américains qui ont fait leur comeback en nombre en France et ils dépensent en moyenne plus que les Français, ce qui participe à notre croissance. Midi 15 sur BFM Business, on jette un œil à la bourse. Avec Étienne Brack, la séance à la mi-journée, Étienne est dans le vert.
Oui, ça se passe très bien pour la Bourse de Paris, avec un indice parisien qui se rapproche un peu plus des 6500 points. On est quasiment au plus haut depuis début juin, plus 0,4% pour la Bourse de Paris. Idem du côté du DAX à Francfort ou du côté de l'Eurostox 50. Quatrième séance consécutive dans le vert à la Bourse de Paris pour le CAC 40, avec un marché qui est toujours positif. Après les publications d'entreprises de la semaine dernière qui, dans l'ensemble, étaient largement meilleures que prévues, on aura encore quelques publications cette semaine, avec notamment demain Bouygues et puis en milieu de semaine Veolia. Il y a AXA, Crédit Agricole ou encore Société Générale. À noter aujourd'hui, parmi les plus fortes progressions, le secteur automobile qui avait surpris la semaine dernière, avec notamment Renault qui est aujourd'hui en tête de l'indice parisien avec un gain de 3,7%. Stellantis également qui gagne un peu plus de 2%. Et puis à l'inverse, les valeurs défensives ferment la marche. Eurofins, Danone et Carrefour sont les trois plus fortes baisses de l'indice parisien. Du côté de l'actualité des entreprises, on peut souligner HSBC. Vous en avez parlé tout à l'heure. Et bien le marché achète cette publication avec un titre qui gagne un peu plus de 5% du côté de la Bourse de Londres. Et puis à l'inverse, un peu plus compliqué pour Heineken à Amsterdam qui perd un peu moins de 2%, 94 euros avec le groupe qui revoit à la baisse ses marges pour l'année prochaine avec l'inflation. C'est très compliqué pour certains groupes de répercuter l'inflation et donc suite à cela vous avez ce titre qui perd un petit peu de terrain. À noter les matières premières qui perdent un petit peu du terrain aujourd'hui, moins 1,3% pour le Brent à 102$ et donc la Bourse de Paris qui poursuit son rebond, quatrième séance consécutive dans le vert, plus 0,4%, 6473 points.
Merci Étienne Brack, midi 17 sur BFM Business. Une dernière ligne droite pour le projet de loi de financement rectificative. Il est au Sénat aujourd'hui. À quoi faut-il s'attendre pour les revalorisations du pouvoir d'achat des Français? On en parle dans un instant avec Michel Rumi. Restez avec nous, à tout de suite.
BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Thomas Schmel.
Dernière ligne droite pour le projet de loi de finances rectificative. Il arrive aujourd'hui au Sénat en commission mixte paritaire avec peut-être un super débat en perspective. Un débat sur les super profits. On le sait, le gouvernement ne veut pas en entendre parler des profits sur les compagnies énergéticiennes qui engrangent les milliards de dollars. On parle des résultats de Total Energy jeudi dernier, 6 milliards de dollars en un trimestre. On va parler également de la redevance audiovisuelle. Les 138 euros par an pour les 23 millions de foyers auxquels était assujetti cet impôt, cette redevance qui a été supprimée pour redonner du pouvoir d'achat, un paquet de mesures qui vont être définitivement adoptées par le Parlement. Michel Rumi, professeur à Sciences Po, doit en parler avec nous. Nous ne l'avons pas encore en ligne. On se demandera si l'État pourra compenser les pertes de pouvoir d'achat avec l'inflation qui a atteint plus 6,1% selon l'INSEE, sur un an. C'est un chiffre glissant puisqu'il était de 5,8% au mois de juin, une explosion de cet INSEE. Et on me dit à l'instant que Michel Rumi vient de nous rejoindre par téléphone. Vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Merci de prendre le temps, un 1er août, pour venir avec nous commenter cette dernière ligne de droite qui se joue en ce moment au Parlement. Michel Rumi, professeur à Sciences Po, on le disait, avant la pause estivale, le Parlement n'a peut-être pas dit son dernier mot sur le pouvoir d'achat. Les sénateurs examinent aujourd'hui le projet de loi des finances rectificatives, l'idée aussi de plusieurs amendements sur les super profits qui pourraient revenir sur la table, socialistes, communistes, même certains centristes. D'abord, est-ce que vous pourrez nous expliquer quelles seront les conséquences concrètes sur les finances des Français dans leur vie au quotidien si ce paquet pouvoir d'achat est adopté?
Alors sur l'ensemble du pouvoir d'achat, et en fait, on va avoir notamment des améliorations. On voit déjà avec toutes la baisse du carburant et avec la contribution de l'État, ça fait à peu près de 50 centimes par litre de carburant. Donc ce que je veux dire, c'est que ça va favoriser notamment les provinciaux beaucoup plus que les urbains. On s'aperçoit qu'il y a une amélioration des cotisations, des prestations sociales. On voit également aussi que il y a des initiatives pour mieux distribuer, on va dire, le partage de la valeur ajoutée. Donc tout cela va ici ou là favoriser le pouvoir d'achat des Français. Néanmoins, au niveau des entreprises, se pose la question de ce qu'on appelle la taxe exceptionnelle sur les profits, qui, à mon sens, ne devrait pas passer parce que le Sénat est à majorité de droite, donc ça devrait rester en l'état, mais cela n'empêche pas la réflexion de rester dans une logique citoyenne, c'est-à-dire que les grandes entreprises, celles qui ont, on va dire, je dis bien les entreprises, hein, c'est pas l'ensemble des entreprises, c'est des plus grosses, hein, celles qui sont à la limite au CAC 40 et encore, puisqu'il y a 3,9 millions d'entreprises qui sont des petites entreprises qui ne sont pas a priori touchées par cette mesure. Donc ces super profits, je dirais, rentrent dans une logique de solidarité dans le cadre de l'augmentation des prix, beaucoup plus que dans une logique budgétaire. Et la difficulté, c'est que le gouvernement n'a pas souhaité augmenter la fiscalité, donc du coup, il ne peut pas inclure une nouvelle taxe, mais néanmoins, la porte est ouverte, puisque il y a des messages sibyllins qui passent, dans la mesure où on dit, bah oui, on verra à la fin de l'année si les entreprises ont joué le jeu en favorisant le pouvoir d'achat des Français. Et on a vu avec Engie, on a vu avec Total, dans une moindre mesure le transporteur CGM. Donc tout cela fait que ça crée un drôle de climat, parce que ça fait de l'incertitude. Et moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que les Français ont besoin de confiance, de savoir où ils ont besoin d'avoir à la rentrée. Pour l'instant, plus ou moins, il y a un grand nombre qui sont en vacances. Et la rentrée risque d'être un peu plus mouvementée, d'une part par la situation française, mais également européenne, puisque on a aussi l'Italie, et donc ça peut chahuter sur la parité au-delà.
Une vague d'exaspération peut-être à attendre. Continuons sur cette taxe sur les super-profits. Voilà, les résultats de Total Énergie ont provoqué une vague de contestation à gauche. Mais pour autant, si vous dites que le Sénat est à majorité de droite, on peut donner l'exemple du Royaume-Uni, de l'Italie, de l'Espagne. Le Royaume-Uni, on le sait, n'est pas l'un des pays que l'on peut accuser d'être particulièrement redistributeur, en tout cas plus enclin au libéralisme. Mais pourtant, ils ont légiféré en faveur d'une taxation des super-profits. Est-ce que cette mesure peut être complètement enterrée aujourd'hui en France ?
Je m'avancerai pas, mais néanmoins, il y a de fortes chances que ce qu'il faut bien voir, c'est que le Royaume-Uni a mis une taxe de 25% sur les compagnies pétrolières et gazières, parce que ces compagnies exploitent du pétrole, produisent du pétrole et du gaz sur leur territoire.
La fiscalité... Alors que ce n'est pas le cas de Total. Total, on le sait, paye exactement peu d'impôts, puisque son activité est localisée, enfin l'essentiel de son activité est localisée hors de France. Il n'y a que le raffinage qui est fait en France.
Exactement. Donc on aurait une taxe sur le raffinage, et à supposer qu'il y ait d'autres, on va dire, une taxe supplémentaire, ça poserait la problématique d'une double taxation pour les résultats français. Donc ça, là aussi, il y a une question de justice, on va dire, d'une équité fiscale, on va dire ça comme ça.
L'inflation est à plus 6,1% selon l'INSEE le mois dernier sur un an. Le SMIC n'augmente que 2%, le retraite de 4%, le point d'indice des fonctionnaires de 3,5%. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'augmentation du pouvoir d'achat alors qu'il y a un décalage ?
Non, l'objectif d'un gouvernement, c'est de faire le maximum, mais c'est pas sachant qu'on est dans un avenir, dans un contexte incertain, notamment, on ne sait pas encore, on ne maîtrise pas tout. On parle de pic, d'autres de plateau d'ici la fin de l'année, puis après une décroissance, donc on n'a pas de perspectives certaines sur comment vont évoluer dans les prochains mois de l'inflation. Donc, ce qui se passe, c'est que on reste sur des aspects de rustine, beaucoup beaucoup plus que de programmes, on va dire, bien de programmes bien établis. Là, bien sûr, on ne peut pas. L'État, pour l'instant, c'est en quelque sorte une course de gendarme derrière le voleur, parce que l'inflation est devant et l'État est derrière. Et l'idée est que il y aura toujours un peu plus d'inflation, notamment dans les incertitudes. Donc, pour l'instant, il essaye, dans la mesure du possible, de limiter la casse en demandant à tous les acteurs de faire un effort, c'est-à-dire aussi bien aux entreprises, aux administrations et aux ménages également, que en fait, on essaie de créer, de sceller une solidarité nationale pour dire je peux pas tout faire, je peux pas tout aider, mais si chacun y met sa part, on pourrait s'en sortir ensemble. Donc bien sûr, il y aura des pouvoirs d'achat après. Après, ce qui m'inquiète, c'est éventuellement c'est les débouchés dans les mois à venir, si on a des de mauvaises perspectives et si la confiance n'est pas là. Ce qui veut dire que les entreprises, si dans le cas où les entreprises ont des débouchés, ont des augmentations de chiffre d'affaires, on pourrait éventuellement rattraper, on va dire, cette perte de pouvoir d'achat. Mais à supposer que la situation empire, ça peut poser d'autres problèmes.
Vous nous l'expliquez, Michel Rumi, l'État, on a l'impression qu'il court après cette inflation. Combien de temps encore? Combien de temps est-ce qu'il pourra compenser ces pertes de pouvoir d'achat? Combien va nous coûter cette dette dans ce contexte inflationniste?
Tant que, on va dire, tant que l'incertitude est là, je suis incapable de le chiffrer. Mmh. Simplement, ça pose des problèmes de maîtrise des finances publiques. Alors que, ce qu'il faut bien voir, c'est ce qui m'inquiète quand on parle de ratio de dette publique. On est à 115% aujourd'hui. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas les 15% supplémentaires, les 15 points supplémentaires, c'est les 100 auparavant qui sont un peu plus structurels. Et l'idée est que avec la crise Covid, avec on va dire la crise ukrainienne, il y a une solidarité et l'État est dans une certaine mesure au service des Français. Ce qui n'empêche, c'est qu'il y a des réformes structurelles à envisager, notamment le rôle de l'État, revoir un peu son action, de voir ce qui est assistance et ce qui est solidarité, c'est de voir un peu également aussi. De manière générale, à chaque fois qu'on sort de crise, il faut surtout pas rentrer dans une politique de rigueur budgétaire, bien au contraire, parce que au sortir de cette crise qui j'espère sera bientôt, il y aura encore des inégalités, il faut essayer d'aider tout le monde pour pouvoir ressortir et surtout pas être obligé de rester dans des clous très de finances publiques.
Mmh, la croissance par la relance, un dernier mot Michel Rumi, est-ce que selon vous on peut s'attendre à une surprise pendant l'examen du projet de loi de finances rectificative au Sénat?
Non, il y aura ici ou là, il y aura bien sûr des petits amendements pour montrer que ça discute. Il faut bien voir que les débats ont été moins houleux qu'à l'Assemblée nationale. Donc, de manière générale, il y aura peut-être une discussion, mais sachant que la fin du match sera sifflée le 7 août, il y aura des amendements, des négociations ou des compromis, mais tout le monde en a un peu marre et je pense qu'il n'y aura pas de grosses surprises. Il y aura ici ou là peut-être à la marge, mais pas de grosses surprises.
On en reparlera ensemble, Michel Rumi. Merci beaucoup, professeur à Sciences Po, d'être venu nous apporter vos lumières sur ces finances publiques qui vont être décidées en commission mixte paritaire au Sénat avant la pause estivale, la pause parlementaire, et qui ne reprendra d'ailleurs les travaux parlementaires qu'à la rentrée en octobre, midi 29 sur BFM Business. Dans un instant, le rappel des titres, et puis BFM Business avec vous, les meilleurs moments de l'année, la rediffusion de l'été. À tout de suite.
60 minutes business. BFM Business avec vous.
Les bons conseils de Lorraine Goumeau pour faire marcher l'entreprise, vous aider, vous, les entrepreneurs qui nous regardez tous les jours. Un tour de France que nous avons réalisé cette année avec de nombreuses délocalisations à Nantes notamment. Nous nous sommes demandé comment faire marcher son business avec Ludovic Badeau, le spécialiste du régime des auto-entrepreneurs. Il a répondu à Lorraine Goumeau et à Guillaume Paul.
On a une première question de Camille. Bonjour Camille.
Bonjour Camille.
Bonjour
à vous.
Bonjour Camille. Camille, est-ce que tu peux nous poser ta question pour Ludovic Badeau?
Tout à fait. Donc en tant que jeune étudiante, j'avais une question pour vous. Quels sont finalement les secrets, les atouts, les conseils que vous avez à nous donner pour réussir dans la carrière d'un jeune auto-entrepreneur?
Alors je ne sais pas si c'est des secrets. En tout cas, c'est effectivement des conseils.
certaines choses à préparer avant de se lancer, mais aussi savoir s'entourer, notamment au niveau professionnel et personnel. C'est très important quand on a envie d'entreprendre. L'entrepreneuriat, c'est très prenant. Il faut être dans une dynamique, dans une énergie. Et pour ça, il faut être entouré aussi des bonnes personnes. Donc, il y a des conseils avec les réseaux, mais c'est aussi au niveau personnel, aussi savoir t'entourer de gens qui, comme toi, ont envie de se lancer, ont cet état d'esprit entrepreneurial. C'est fondamental. Ensuite, d'un point de vue plus pratique, si j'ose dire, faire un prévisionnel, c'est pas mal, hein, de projeter un peu combien ça va me coûter d'investir dans ce projet, combien est-ce que ça peut me rapporter, combien ça doit me rapporter pour que ce soit viable. On peut aussi penser au fait de faire une petite étude de marché, regarder un petit peu qui seraient ses clients, donc vraiment préparer le terrain en se disant qui seront mes clients. C'est fondamental, parce qu'on peut pas arriver comme ça avec une entreprise sans savoir connaître précisément ses clients. Donc ça serait ces quatre conseils, voilà, bien s'entourer, faire un prévisionnel, savoir qui sont ses clients, découvrir ses clients pour bien préparer les choses.
On a pas mal de questions d'auditeurs en plus de questions d'étudiants. Une des questions qui remonte de manière récurrente à chaque fois qu'on fait aussi une émission avec vous, Ludovic, c'est la question du revenu. Qu'est-ce qu'on peut espérer comme revenu moyen? On entend ça et là des estimations très variées. Est-ce qu'on peut vivre à 100% en étant entrepreneur, notamment pour les jeunes gens qui sont avec nous, quand on est étudiant et qu'on a besoin de gagner sa vie?
Oui, alors évidemment, moi je suis entrepreneur et je gagne ma vie, c'est 100% de mes revenus l'entrepreneuriat, donc c'est possible. Je dirais même que quand c'est une nécessité, quand on lance un projet et que ce projet doit nous permettre de gagner notre vie parce qu'on n'a pas d'autre source de revenus, c'est aussi un élément moteur parce qu'on n'a pas le choix. Donc quand il faut aller trouver des clients, qu'il faut vendre ses produits, on le fait parce qu'il faut vivre de son activité. Donc ça peut être un moteur d'avoir la nécessité de gagner sa vie avec son activité. Ce qui est bien avec l'auto-entrepreneuriat, c'est qu'on peut combiner les deux. On peut être salarié et on peut avoir une activité entrepreneuriale. Donc on n'a pas cette pression de se dire il faut que mon projet entrepreneurial couvre 100% de mes charges. On peut vraiment allier les deux. C'est intéressant ça, avec l'auto-entreprise, de pouvoir faire les deux. Et donc, on peut effectivement... le but, c'est quand même de gagner sa vie avec son activité. Et c'est tout à fait possible. Mais il faut vraiment le dire, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de détermination, beaucoup d'ambition. Il faut être à 100%.
Ludovic, on a beaucoup de questions de nos jeunes étudiants, mais on en a aussi sur Internet. Et celle-là, elle est très, très importante. Comment fonctionne l'AFE, nous dit Elena, l'aide financière exceptionnelle destinée à ceux qui ont souffert de la cinquième vague? Qu'est-ce que c'est l'AFE exactement?
C'est effectivement une question essentielle, puisque... Oui. C'est vrai qu'on n'en parle plus, mais il y a beaucoup d'indépendants qui ont souffert de la cinquième vague en décembre, janvier. C'est l'aide financière exceptionnelle. C'est le dispositif annoncé par le gouvernement pour venir en aide aux entrepreneurs qui se sont retrouvés en difficulté avec cette cinquième vague. C'est un dispositif, c'est une aide sociale. On peut en faire la demande sur le site de la Sécurité sociale des indépendants, jusqu'à 6 000 euros. C'est un dossier qui va analyser au global la situation du foyer et pas simplement les pertes de chiffre d'affaires. Donc c'est un gros dossier. Mais c'est effectivement le dispositif qui aujourd'hui est proposé par l'État pour accompagner ceux qui ont souffert de la cinquième vague.
Ouais. On donne la parole à notre public, Lorraine, on a plein de questions ici.
Oui, on a une question, on va se projeter un peu dans le monde de l'emploi. C'est Lilian qui a une question pour nous. Bonjour Lilian.
Bonjour. Bonjour. J'avais Lilian. Une question, quelles sont les activités les plus prometteuses à l'avenir?
Alors je ne sais pas précisément quelles seront les activités les plus prometteuses, les secteurs peut-être, services à la personne, avec, on le sait, en France, et pas qu'en France d'ailleurs, une population vieillissante. On peut aussi penser au secteur de l'éducation, avec des enjeux de formation qui sont considérables dans l'avenir. Secteur de la santé, évidemment, l'environnement. Après, c'est une question intéressante quand on a envie d'entreprendre. Mais je pense que la vraie question qu'on doit se poser quand on a envie d'entreprendre, c'est qu'est-ce que tu aimes ? Parce que l'entrepreneuriat, c'est tellement prenant, c'est tellement d'énergie, c'est tellement de temps et de motivation nécessaire qu'il faut vraiment que ce soit un projet qui t'anime, une idée qui te porte. Et c'est là et seulement là, je crois, que vraiment on peut réussir en tant qu'entrepreneur. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce qui te plaît ? Qu'est-ce que tu aimerais faire ? Et où est-ce que tu trouverais ton épanouissement si tu montais ta boîte, je pense ?
Ludovic, on a une question d'une autre étudiante, il s'agit de Prune, qui vous demande quelle a été votre principale difficulté pendant la création de l'entreprise. Est-ce que c'est du côté administratif? Est-ce que c'est du côté financier? Est-ce que c'est du côté motivation? Qu'est-ce qui a été le plus dur?
Administratif et financier à la fois.
Moi je déteste, comme beaucoup d'entrepreneurs, je déteste les papiers, je déteste les formalités, je déteste la comptabilité. Je suis plutôt un créatif. Donc pour moi, le plus douloureux, ça a vraiment été... les formalités, la comptabilité, le bilan, les justificatifs à fournir au comptable. En France, on a un encadrement réglementaire sur l'activité, c'est très structuré et je trouve ça fatigant et pénible. L'auto-entreprise d'ailleurs simplifie les règles de gestion, ce qui permet, c'est pour ça qu'il y a un succès phénoménal en France hein, sur l'auto-entrepreneuriat, c'est parce que tout le monde peut entreprendre simplement avec des règles administratives et de gestion simples. Sur la partie purement financière, j'ai jamais vraiment eu beaucoup de budget, on va dire, pour lancer des activités. Mais je crois que c'est un moteur. Quand on doit gagner sa vie, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on n'a pas d'argent, il faut que ça marche. Eh ben, le fait de devoir trouver de l'argent, c'est un vrai moteur pour développer son activité.
Ludovic, encore beaucoup de questions. Alors, très pratique de la part de nos internautes. C'est Grégory qui dit, voilà, je lance mon activité. J'ai entendu parler de l'exonération ACRE. A-C-R-E. De quoi parle-t-on ? Est-ce qu'elle est systématiquement accordée, nous demande Grégory. Alors, faites-nous un peu de...
Ouais. Alors, l'ACRE, c'est l'aide à la création et la reprise d'entreprise. Ouais. Ça vous concerne, hein, puisque c'est une aide qui est notamment ouverte aux jeunes jusqu'à 26 ans et qui permet de payer 50% de cotisation en moins la première année. Donc, on ne va pas cracher dessus. Hein, c'est un dispositif intéressant. Et donc, il faut faire cette demande lors de la déclaration de début d'activité. C'est important parce que ça fait partie de ces avantages, ces dispositifs qui sont parfois méconnus. Et quand vous passez à côté, que vous vous rendez compte 2 ans plus tard, vous faites « Ah bah mince, j'ai payé le double de cotisation la première année d'activité. » là où j'avais le plus besoin d'économiser sur mes cotisations. Donc, si j'ai aussi un conseil à donner pour revenir à la première question, c'est de bien se renseigner sur les dispositifs avant de se lancer, parce qu'on est dans un pays absolument incroyable, en France, on peut entreprendre de façon totalement accompagnée. On a la BPI, la Banque Publique d'Investissement, qui est vraiment extraordinaire en termes de financement, d'accompagnement. Donc, le nombre de dispositifs en France est vraiment hallucinant. Donc, ça, il y a vraiment un sujet au début. Je cherche bien sur les dispositifs.
Alors attendez, auprès de qui on se renseigne sur les dispositifs en question? Et vous dites qu'il faut faire cette demande d'ACRE. Auprès de qui on la demande là aussi, Grégory? Ludovic, là,
alors la demande d'ACRE, c'est lors de la déclaration de début d'activité. Ouais. Hein, donc c'est une petite case à cocher quand on est auto-entrepreneur. Donc c'est auprès de l'URSSAF.
Une petite case à pas louper surtout.
Une petite case à pas louper, effectivement, ça peut coûter cher. En ce qui concerne les dispositifs, moi je vous inviterai à vous tourner notamment vers la BPI qui a vraiment des dispositifs incroyables. Ouais.
Pour rebondir sur la question de Lilian, on se demandait les activités et les secteurs les plus porteurs. Là, aujourd'hui, on a le public devant nous, de jeunes gens. On a 5 heures par semaine pour pouvoir travailler en plus de ses études. Qu'est-ce qu'on va faire comme job en tant qu'auto-entrepreneur en parallèle de ses études? Qui va être bénéfique pour son porte-monnaie, peut-être quand on doit autofinancer ses études, aussi pour financer ses loisirs, mais aussi pour son CV. Dans une logique de construction de CV, quelles sont les activités les plus intéressantes à pratiquer en auto-entreprise quand on est étudiant?
Ça dépend effectivement des études que l'on fait. Si c'est vraiment du complément de revenu, on a beaucoup d'applications aujourd'hui. Je crois que ce matin, il y avait Allo Voisin dans la matinale de BFM Business, où là, c'est des services et ça permet. Il y a beaucoup de jeunes qui font ça, services entre voisins, pour augmenter effectivement un petit peu les revenus. Si vraiment c'est pour faire enrichir son CV, se préparer pour la vie active, je peux vous conseiller par exemple la plateforme StaffMe qui permet de faire travailler les jeunes étudiants sur effectivement des domaines qui sont en corrélation, en cohérence avec leur domaine d'études, et donc ça leur permet de gagner leur vie et ensuite d'avoir un CV un peu fourni lorsqu'on se lance dans la vie active.
On va dire un mot des indépendants. Cette campagne, il y a une consultation nationale sur les indépendants à l'heure actuelle.
Oui, alors c'est une consultation effectivement qui est organisée par plusieurs organisations, dont indépendant.co.
Pour faire remonter les attentes, évidemment, les revendications.
Oui, absolument. L'idée, c'est vraiment de comprendre comment est-ce qu'on pourrait améliorer le quotidien des indépendants, notamment d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue administratif. Et pour ça, il y a effectivement cette grande consultation qui est organisée sur 30 millions d'indépendants.fr.
Peut-être un mot conjecturel pour conclure. On a quelques étudiants qui nous ont écrit, dont Alix, qui s'inquiète évidemment des circonstances économiques, de la guerre en Ukraine, et qui néanmoins pense à se lancer. Qu'est-ce qu'on peut dire pour conforter Alix dans son choix?
Si on reprend par exemple ce qui s'est passé avec la crise sanitaire, avec le Covid, finalement, il y a eu un record de création d'entreprises pendant le Covid. Donc ça peut être un électrochoc, toutes ces situations économiques, ces situations géopolitiques, ces situations qui nous disent, finalement, c'est qu'est-ce que je veux dans la vie ? Hein, donc ça peut être aussi un élément moteur pour dire, on n'est pas immortel, on ne sait pas de quoi sera fait demain, allons-y, lançons-nous dans un projet qui nous permettra d'être épanouis.
Les entrepreneurs dans BFM Business avec vous, midi 43 sur BFM Business, on continue la rediffusion des meilleurs moments avec nos recruteurs qui viennent chaque jour sur notre plateau pour nous faire part de leurs offres d'embauche, 100 000 offres d'emploi toute la saison dernière. L'Union Nationale des Entrepreneurs de Carrelage de la Fédération Française du Bâtiment était avec Lorraine Goumeau. À tout de suite.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
c'est bien l'Union nationale des entrepreneurs de carrelage, de chapistes et de projeteurs de polyuréthane de la Fédération française du bâtiment.
Bien oui, bienvenue Christophe. Vous venez aujourd'hui comme porte-parole de tout un secteur, un sous-secteur du bâtiment qui peine à recruter. Vous cherchez 3000 personnes, une main-d'œuvre qui manque. Parlez-nous un peu de ces métiers qui sont pénuriques.
Effectivement, nous avons nos métiers qui ont été tellement dévalorisés pendant des années qu'aujourd'hui, le triste constat est de se dire qu'on n'a plus, on n'a plus de personnel disponible. Et effectivement, plutôt que de faire un simple constat, ça a été d'avoir une forte réaction. On n'est pas des gens de la communication, mais on a décidé de prendre le bâton de pèlerin et lancer une campagne nationale pour nos carreleurs, pour nos chapistes et nos projeteurs de polyuréthane. Ouais. Trois métiers nouveaux qui sont reconnus avec des exigences particulières, une technicité particulière, un savoir-faire et surtout un métier artistique, si on parle des carreleurs mosaïstes,
mais
bien sûr.
Vous êtes amené dans des hôtels, dans des restaurants, un peu dans le luxe, mais pas que.
Tout à fait, on est sur des établissements de balnéothérapie, des piscines qui sont magnifiques, de la mosaïque, on a de beaux hôtels. Aujourd'hui, nous travaillons de très grands formats de carreaux, jusqu'à 3 mètres par 1 mètre, mais avec une moindre pénibilité, puisqu'effectivement nous utilisons des outils adéquats, avec des systèmes de ventouses, des systèmes de transport, des conditionnements de produits de mise en œuvre allégés, etc.
Et comment ça se fait que ça soit si pénurique ?
Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? C'est que depuis plus de 30 ans, on a dévalorisé les métiers manuels. Ces métiers manuels ont été dévalorisés. Il a fallu des bacheliers à tout prix. Et ces bacheliers-là, ils sont là. Mais derrière, de découvrir notre métier, non, ils n'en veulent pas. Donc, parce que c'est dur.
Là, il faut recruter. Et il faut recruter rapidement.
Il y a urgence. Il y a urgence. Et c'est pour cela que nous avons mis tous les moyens en œuvre, si vous voulez, pour arriver à un résultat. Et aujourd'hui, notre campagne, qui a été lancée depuis plus d'un mois, prend un bel essor. Nous avons déjà des personnes qui sont intéressées. Nous avons déjà des retours. Et nous allons continuer à œuvrer dans ce sens-là, quitte à lancer notre phase 2, si vous voulez, avec des plus jeunes, de même pour notre...
Il faut faire de la pub pour ces métiers qu'on ne connaît pas forcément, d'ailleurs.
Carreleur mosaïste, ouais. Activité artistique essentielle pour finir les travaux, intérieur mais aussi extérieur. Chapiste, donc ça c'est tout un travail, des produits un peu liquides, on imagine, pour faciliter tout le reste du boulot.
Exactement, c'est la mise en œuvre du support, de la chape pour le carreleur, qui est mise en œuvre d'une manière liquide, donc avec une moindre pénibilité, une meilleure technicité, donc des ouvrages réalisés avec une performance plus conséquente.
Et des projeteurs de mousse polyuréthane. Alors ça, c'est encore avant la chape. Décrivez-nous en deux phrases ce métier.
Ben, en deux phrases, en fait, avant, on mettait de l'isolant au sol. Vous savez qu'on parle de thermie, hein, de plus en plus dans nos bâtiments. Hein. Et effectivement, qu'est-ce qu'on fait au lieu de se mettre à quatre pattes, à poser des isolants, à les couper avec des cutters au risque de se couper les doigts. Mais aujourd'hui, on projette, si vous voulez, ce produit-là qui se met en place directement sur le sol pour réaliser les systèmes d'étanchéité et surtout d'isolation thermique de nos ouvrages avant la chape et bien sûr pour finir avec l'excellence du carrelage.
Mais vachement intéressant parce que c'est des métiers qu'on connaît pas forcément et qui sont indispensables aujourd'hui dans le bâtiment.
Jeunes, mais on imagine aussi en reconversion.
Ouais. Et en reconversion, effectivement, puisque on l'a vu après le Covid, beaucoup de gens cherchent à cette reconversion et se cherchent.
Pour postuler, Lorraine.
Une seule adresse, devenircarreleur.fr. Vous avez entendu, on ne parle pas que de carreleur, on parle aussi de chapistes, de projeteurs, de mousse polyuréthane et de tous ces métiers manuels, mais que la technologie est venue, dont la technologie est venue limiter la pénibilité. Et métier essentiel, ça recrute. Donc, pensez-y, 3000 offres, 3000 postes ouverts en CDI et partout en France. On imagine qu'il y a des zones particulièrement tendues.
BFM Business, les meilleurs moments de l'année, la France qui bouge.
Aujourd'hui, on est dans le 9e arrondissement de Paris. On se rend dans le studio qui enregistre les programmes de Petit Bambou, l'application de méditation qui ne cesse de progresser depuis le début de la pandémie.
Grâce au haïku, ces minuscules poèmes, nous explorons les énergies, les sensations et les climats.
Très bien, toi, tu n'avais pas d'être un peu rapide, là, je te trouvais très, très centré.
Ce matin-là, Pascal Chin, collaboratrice, lit quelques haïkus, des poèmes japonais très courts tournés autour des sensations. Pour cette spécialiste du genre, ils trouvent toute leur place dans l'application Petit Bambou.
Il y a un lien naturel entre ces petits poèmes qui sont comme des images, des petites bombes sensorielles, qui permettent d'être un support de méditation, en fait. La méditation qui était classique, qui était réservée à quelques initiés, peut devenir une alliée de vie pour tout le monde.
L'application Petit Bambou propose une centaine de programmes de méditation, le tout à portée de doigt. Elle a été cofondée en 2014 par Benjamin Blasco.
En fait, l'idée, c'est que les gens puissent vraiment essayer cette pratique gratuitement, librement, etc., pour vraiment ressentir les bénéfices. Et s'ils le souhaitent ensuite, ils sont invités à s'abonner pour accéder à un vaste catalogue.
L'abonnement coûte autour de 7 euros par mois. Avant la pandémie, l'application comptait 6 millions d'utilisateurs dans le monde. Aujourd'hui, c'est plus de 9 millions.
C'était une période particulière, le confinement, hein, parce que passé la phase de sidération des premiers jours, ensuite il y a eu une très forte demande d'utilisateurs et nouveaux et existants, ce qui fait que le nombre d'utilisateurs par jour a été multiplié par 3. Ce qui a été assez intense pour nous. Donc on a été très mobilisés, côté technique avec les serveurs et même avec les instructeurs pour faire des lives sur Internet, proposer des choses gratuitement pour les infirmiers, etc.
Disponible dans d'autres langues comme l'allemand, l'espagnol ou l'anglais, les programmes autour de la joie, du stress ou de l'anxiété touchent un public très large.
Il y a à peu près 60% de gens qui ont plus de 35 ans. Donc ça veut dire qu'il y a à la fois pas mal de gens âgés par rapport à l'usage digital, mais aussi beaucoup de jeunes. Et puis il y a 66% de femmes. Donc c'est aussi très positif parce que ça veut dire qu'il y a plein d'hommes aussi qui le font, ce qui n'est pas forcément très intuitif au départ. Et donc on est ravis de voir cette population qui s'étend de jour en jour.
Petit Bambou, qui compte une vingtaine d'employés, compte encore multiplier les collaborations avec des enseignants et des experts en méditation. De nouveaux programmes autour de la respiration seront publiés d'ici la fin du mois.
BFM Business, les meilleurs moments de l'année.